Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif.
Dans ma perception, l'échec, ça n'existe pas tellement. J'ai rien à perdre, en fait, j'ai déjà tout perdu. Selon de là où tu viens, on va directement te coller une étiquette. Bon, celle-ci, elle a un peu de caractère. Non, elle est trop mignonne, elle est trop timide, on en fait ce qu'on veut. Soyez passionné par ce que vous faites à fond. J'ai du mal à faire des choses que je ne veux pas faire. Parce que avant, quand j'ai lancé ma boîte, je ne veux plus faire des choses que j'aime pas. J'ai toujours envie de plus, ça c'est sûr. Mais j'essaye aussi de me dire, putain, mais meuf, t'as réussi en fait. C'est quoi en fait, même la réussite? Pour chacun, je pense que la définition est à revoir. Moi, la réussite, j'ai envie de dire que je l'ai quand même fait. C'était en fait de sortir de ce cadre salarial pour arriver à faire de ma vie une passion. Tu peux écouter les autres, mais juste recadre-toi sur le fait que prends du plaisir dans ce que tu fais. Et s'il faut qu'il y a des moments où tu vas un peu moins vite, bah va moins vite.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour cette rentrée, je suis très heureux de vous retrouver pour une série de 6 épisodes en collaboration avec le Soli Hotel. Le Soli Hotel, c'est un nouvel hôtel 4 étoiles qui a ouvert à Paris, 4 rue Salomon-de-Cos, et qui conjugue l'esprit d'une maison d'hôte et d'un hôtel parisien. Soli, c'était le surnom de Salomon-de-Cos, un grand voyageur, ingénieur et architecte, qui a insufflé à toute la maison un état d'esprit curieux, créatif et ouvert au monde. Dans cette série de 6 épisodes, vous allez découvrir des entrepreneurs incroyables avec des parcours très différents mais très inspirants. On va parler de sujets tels que le fait de gérer des célébrités, d'avoir pour mission de réduire le gaspillage alimentaire, le fait d'avoir été modèle pour Meta et Google, d'avoir ouvert une chocolaterie luxe dans Paris, d'avoir créé une marque de vinaigre de cidre, ou enfin d'avoir une grande carrière médiatique, notamment à la télé et à la radio. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode au Soli Hotel qui nous accueille très gentiment. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Lorinda Hudgens. Comment ça va, Lorinda ?
Ça va très bien, merci. Je suis très heureuse d'être invitée.
Très heureux de t'accueillir. T'es directrice artistique ? T'es artiste, t'es entrepreneur, t'es aussi modèle, tu fais plein de choses, ça va être super cool. On va pouvoir en discuter dans cette conversation. Du coup, j'avais très hâte d'échanger avec toi. Mes podcasts commencent toujours par la même question, et c'est de savoir dans quel environnement est-ce que t'as grandi.
Alors, c'est une sacrée question. Dans quel environnement j'ai grandi? Eh bien, je viens de La Rochelle. Bord de mer. Et en fait, j'ai grandi entre La Vendée et La Rochelle, précisément, dans un milieu qui n'est absolument pas artistique, pour le coup, où j'ai mon papa qui est routier et ma maman qui est assistante maternelle, donc absolument pas dans le milieu artistique. Et en fait, j'ai commencé en fait mes études directement dans des milieux plus administratifs compta. J'ai fait même un bac pro secrétariat compta, clairement aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui, mais ça m'aide aujourd'hui dans tout ce qui est administratif.
C'est important.
Oui, c'est important, complètement. Et par la suite, je suis allée à La Rochelle pour faire un BTS commercial. Ce qui m'a un petit peu servi. Et en fait, moi, mon objectif, vu que je ne savais pas encore réellement ce que je voulais faire, si on suit le cursus école, je dis bien, qu'est-ce que je fais à travers mes études, et donc qu'est-ce que je fais après un BTS, j'avais tellement envie d'aller du côté artistique, du côté photo, du côté communication, ce que je n'ai pas pu faire, malheureusement.
Quelle raison?
Parce qu'en fait, il me fallait plutôt 5 ans d'études, c'est-à-dire que genre, limite, je devais avoir 15 ans, donc en fait, c'était clairement pas possible, si on résume. On me demandait tellement de niveau d'études que ce que je n'avais pas, je pouvais pas partir de zéro, mais je partais de zéro en soi dans ce côté créa. Du coup, j'ai décidé de me lancer moi-même. et de me former en fait à l'époque avec YouTube, avec toutes les plateformes web qu'on a encore aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai commencé.
Ok. Est-ce que tu te souviens de tes premières passions, pour revenir un peu, tu vois, au départ?
Oui, bah, la photo, clairement.
La photo,
ouais.
Comment est-ce que tu te découvres cette passion, finalement?
Alors, je me découvre cette passion, en fait, tout simplement à travers mon regard, en fait, de me dire, et c'est encore le cas aujourd'hui, je vois des choses, je fais, oh là là, il me faut un appareil photo. Ou alors, là, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, on a le téléphone, donc hop, je sors mon téléphone, je fais une photo. C'est vraiment mon regard, en fait, et l'attirance, en fait, pour les choses plutôt esthétiques. Et esthétique, ça peut très bien être dans la mode, dans les portraits un peu singuliers de personnes que je peux rencontrer ou croiser dans la rue, ou le style vestimentaire de personnes différentes. Et encore des paysages ou des choses que je peux voir qui sont incroyables, comme les road trips que je peux faire quelquefois, ou les voyages que j'ai pu faire. Et donc, c'est vraiment ça, dès le début, qui m'a passionnée. Je me souviens avoir demandé à ma mère, « Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un appareil photo, s'il te plaît ?» Et j'ai eu mon premier appareil photo.
Ouais, tu t'en souviens ?
Et ouais, je m'en souviens, ouais. C'était le cadeau le plus ouf que j'avais eu à ce moment-là en soi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et indirectement, je me souviens que je faisais aussi beaucoup d'autoportraits. Et en fait, ce qui me plaisait encore plus dans la photo, c'était le côté retouche. Donc, je passais énormément de temps dans ma chambre à retoucher, à retravailler les photos, à imaginer un peu, bah là, on pourrait faire plutôt telle couleur, ou alors à faire des montages de mi-lion, mi-être humain. Je me souviens que je faisais des trucs comme ça dans ma chambre. Et franchement, je kiffais. Mais je passais effectivement des heures à être sur Photoshop et mon appareil photo.
Donc ultra créative dès le départ.
Dès le départ, et je ne saurais pas te dire à quel moment je me suis dit, tiens, j'ai envie d'être photographe, j'ai l'impression que ça a toujours été là. Ouais, parce que même je me souviens qu'à l'école, au collège, j'avais fait un petit business qui avait un peu mal tourné d'ailleurs parce que j'avais fini dans le bureau du directeur.
Tant que tu me dis pas en prison, ça va.
Non, ouais. Et en fait, je m'amusais à dire bon bah aux élèves qui étaient dans ma classe. Oui, je vous fais des portraits pour 1 euro, 1 euro en noir et blanc et 4 euros en couleur.
Ça va, c'est pas cher.
Ouais. Bah, attends. Non. J'ai commencé comme ça en fait. Le premier deal, c'était ça. C'était au collège et je me souviens que ça avait bien fonctionné, mais j'avais visiblement pas le droit de faire ça.
Donc sans t'en rendre compte, âme d'entrepreneur, mais quand même, le fait de vouloir vendre des trucs.
C'est ça. Sans conceptualiser
l'entrepreneuriat, parce qu'évidemment, à cet âge-là, on ne sait pas du tout ce que c'est.
Clairement pas. Clairement.
Les entrepreneurs, c'est les gens qui sont à la défense et qui ont des grands groupes, tu vois. Mais sinon, tu ne visualises pas l'entrepreneuriat, tu vois.
Non, pas du tout. Pas du tout. Plus, non, absolument pas.
Mmh. Ok. Ouais. C'était quoi ton premier job?
Mon premier travail, en fait, j'ai commencé à 16 ans. Et en fait, dans tout le cursus qui est le bac pro, en fait, il y a beaucoup de stages en entreprise. J'ai eu l'impression, en tout cas, d'avoir touché à tout, que ça soit du bâtiment, que ça soit la banque, que ça soit l'assurance, que ça soit de l'immobilier. Après, même des agences de com, photo. Voilà, je pense que j'ai touché à tout et en me disant, qu'est-ce qui me plaît vraiment? Je me voyais clairement pas dans aucun des métiers que j'ai pu toucher. Mais par contre, j'ai beaucoup appris dans le monde de l'entreprise, ce qui m'a fait mûrir assez vite, je dirais, sur ce côté-là. Mais pour autant, je me disais, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre des photos, quoi. C'est de prendre des photos et de m'éclater. Et j'avais déjà en tête d'être photographe. Mais bon, visiblement, c'était pas vraiment ce que les parents voulaient réellement de moi, en me disant, mais ma chérie, c'est bien d'être photographe, ouais, faut un vrai travail, et voilà. Et donc, c'est vrai que, bon, bah, je me disais, ok, je vais continuer, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Donc, réellement, mon premier travail, c'était dans l'administratif, que ça soit en mairie ou que ça soit même pour une école de commerce. Donc, ouais.
Tu retiens quoi de tes expériences de salariat?
Je dirais une bonne expérience et une mauvaise expérience. À la fois, je pense que j'en serais pas là où je suis si j'avais pas vécu ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut correspondre à un bon nombre de gens, en fait, d'être salarié, qui, moi, clairement, me correspondait absolument pas. J'ai vécu des choses ultra intéressantes. Et c'est aussi ça qui m'a permis de me dire, en fait, il y a rien qui te passionne dans ce que tu fais. Et en fait, je trouve que dans le monde entreprise, c'est aussi dur de répondre, en fait, à des exigences qui sont, très personnelles au final. Et je dirais que c'est ça qui m'a permis de dévier, en fait, sur l'entrepreneuriat aujourd'hui, clairement.
Tu switches en 2016, puisque tu es entrepreneur depuis 2016, ouais, si je dis pas de bêtises.
C'est ça. En étant salarié.
Évidemment, en commençant l'entrepreneuriat en side et en étant salarié. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer vraiment, tu vois, dans l'entrepreneuriat?
Déjà, juste l'entrepreneuriat tout court, à l'époque, ça me parlait pas du tout. Je savais même pas le mot entrepreneuriat, clairement pas, ou de me dire j'ai envie d'être le patron de ma propre boîte, clairement pas.
Ce qui veut rien dire en vrai.
Ouais, enfin, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas l'impression que ça soit si loin que ça, de me dire, de me rappeler, mais à quel moment je me suis dit je suis entrepreneur. Je crois que c'est il y a pas si longtemps au final, je trouve. Et donc clairement, il y a eu un déclic en fait. J'ai eu un décès dans ma famille qui m'a posé une question où c'était assez flagrant. Et à partir de là, je me suis dit mais en fait, à quel moment dans ma vie je veux passer plus de temps avec des gens que je n'ai pas envie de voir. Et c'est là où je me suis dit mais en fait, est-ce que ma vie c'est ça, c'est de passer plus de temps avec ces gens-là que de passer du temps, en fait, que je pourrais, en fait, parce qu'on a toujours le choix, avec ma famille, avec mes amis, avec mes proches. Et je me suis dit, mais en fait, je veux pas ça. Et en fait, quand on perd quelqu'un en soi, je pense qu'il y a une énorme remise en question aussi. En tout cas, moi, de mon expérience, ça m'a beaucoup bouleversée. Et du coup, ça a touché aussi la peur, en fait, de me dire, en fait, qu'est-ce que t'as... En fait, j'avais peur de me lancer. Me dire oui, bon, je sais pas si je suis capable de, je sais pas si je vais réussir financièrement, je sais pas vraiment où je veux aller, je sais par contre ce qui me passionne, ça oui, mais je savais aussi ce que je voulais pas. Et en fait, quand on perd quelqu'un, je pense qu'il y a rien de pire au monde que de perdre quelqu'un tout simplement qu'on aime. Et en fait, le reste, c'est même pas important. Enfin, juste financièrement, de se dire, ouais, je sais pas combien je vais avoir à la fin du mois. Bon, je sais pas si je vais réussir ou pas. Ça a commencé comme ça. Donc en fait, j'avais plus de peur. Clairement, je me disais, ouais, je suis partie à Londres. J'avais clairement pas d'argent. mes parents m'ont dit, écoute, vas-y, hein, mais parce que j'avais envie et je pense que je leur ai pas tellement laissé le choix. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et quand je suis revenue en tant que salariée, mais j'avais déjà un peu pour objectif de monter ma boîte. Donc du coup, en 2016. Ma boîte, non, juste d'avoir un statut pour pouvoir facturer, en fait.
C'est un numéro de sirette, c'est une société.
Exactement. Et à partir de là, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Et là, j'ai commencé à avoir des contrats qui me prenaient plus de temps que mes 35 heures en tant que salarié. Et finalement, à ce moment-là, j'ai dit, je quitte du coup l'entreprise dans laquelle j'étais en tant que salarié. Et c'était un peu le vide.
Ouais, normal.
C'est un peu le saut.
Parce que t'as pas d'exemple aussi, puisque t'es
non,
dans...
Non, voilà, j'ai pas d'exemple.
Exactement, c'est encore plus difficile.
C'est ça, et je pense que dans la façon de penser à ce moment-là, c'était... J'ai rien à perdre, en fait, j'ai déjà tout perdu. En fait, quand on perd quelqu'un de cher, c'est un peu la réflexion, en tout cas, que moi, je me suis faite. Et j'avais peur de rien, donc j'avais juste, en fait, à faire des choses que je kiffais et rien d'autre. Il n'y avait que ça, en fait, qui me donnait envie de vivre, en fait, tout simplement. Donc,
je pense que quand on perd quelqu'un de très proche, moi, ça m'est arrivé en 2013, vraiment la première fois où je perds quelqu'un de très proche, je pense que ça actionne des questions que tu te posais pas avant. De te dire, ok, la vie, il y a un début, il y a une fin. Et entre les deux, si tu fais pas un maximum de choix que tu as décidé, tu vas potentiellement le regretter, tu vois. Et je suis convaincu que effectivement, bah, ces moments très douloureux, tu vois, te permettent aussi de te questionner, de te remettre en question et te dire, ok, je vais prendre des décisions que je vais pas regretter plus tard. Et du coup, c'est ce que t'as fait toi, en fait.
Ouais. Oui, des décisions que je vais pas regretter plus tard, je sais pas. Je savais même pas. Je t'avoue, je sais pas.
Je pense que les plus grands regrets, c'est des décisions qu'on n'a pas prises,
oui, oui,
plutôt que des décisions qu'on a prises.
Exactement. Je suis absolument d'accord avec ça.
C'est le moment où tu te lances, donc tu crées ton statut. Là, tu es sur une auto-entreprise, puisque à l'époque, ça s'appelait comme ça, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
C'est quoi ton métier à ce moment-là?
La photo.
La photo. Photographe.
La photo, clairement. La photo, le mannequinat est venu en parallèle, mais un petit peu plus tard. Par contre, moi, à côté, je développe beaucoup mon image. Mais sans trop le faire, parce que le mannequinat, le monde de l'image, faut être quand même assez fort, je dirais, et être assez confiant avec soi-même, sans avoir en fait toute la société qui te tombe dessus en disant ça va pas, ce physique-là, non, en fait, t'es trop ci, t'es trop ça, ou t'es pas assez ça. Et je l'ai vu direct, et je me suis dit, je vais pas en faire une, je vais pas le mettre en avant, en fait. Et je préférais être, ouais, en fait, de me focaliser sur la photo, qui était vraiment ce que j'ai toujours aimé. Et surtout aussi d'être un peu loin de ce qu'on pouvait me dire. Oh, mais en fait, t'es très jolie. Et en fait, de me dire, je réussis parce que je suis très jolie, j'avais vraiment un problème avec ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est encore un peu différent, ma façon de penser. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, non, je veux pas, ou j'hésite, ça me plaît, mais je sais pas. Donc, je focalise toute mon énergie sur la photo, la vidéo aussi. Et je me suis lancée comme ça. Et je me souviens que l'entreprise dans laquelle je travaillais, c'est le dernier contrat, CDD que j'ai pu avoir, m'a aidée aussi là-dedans. Donc, j'ai pu contribuer, en fait, à mes premiers contrats payés, devis, factures, etc., avec un reportage photo grâce à cette entreprise-là.
Donc, tes premiers clients, tu les trouves grâce à ton expérience de salarié.
Ouais, c'est okay, ça.
Trop cool.
Et en fait, d'ailleurs, je pense qu'ils ont compris directement là où j'avais envie d'être. Et ils m'ont aidé à ça, d'ailleurs. Ouais. Donc.
Comment ça évolue au fil du temps? Tu restes photographe, t'enchaînes les prestations, les contrats, tu travailles pour quelle typologie de clients? Comment est-ce que ta vision du business, entre guillemets, évolue?
Eh bien, les premiers contrats donc, sont basés à La Rochelle, dans des grands groupes qui peuvent être très bien dans l'éducation que sur le côté touristique. Et en fait, je suis ultra heureuse de répondre à une certaine demande de clients quand même assez gros, qu'on puisse me faire confiance, surtout à un lancement. Enfin, en tout cas, moi, je savais de me lancer, les autres, je ne sais pas. et donc du coup je garde le cap et je dis et toujours plus en fait et d'aller toujours plus loin et ensuite il y a le mannequinat qui arrive où je souhaite toujours travailler mon image, je m'inscris dans des agences en faisant toujours attention et en gardant en tête que ça ne sera pas ton métier premier, que tu feras attention à toi, à ton image ou même à ce que les retours qu'on peut avoir de toi.
Aux gens qui sont dans ce milieu aussi.
Ouais, complètement. Et voilà, donc tout commence à La Rochelle. Et ensuite, l'évolution, clairement, c'est d'aller, je crois, un an après de m'être lancée à peu près, un an ou deux ans. Un an où ça fonctionne déjà quand même pas mal, et ben je vais sur Biarritz. Donc, je descends sur la Côte Basque. Et là, j'y vais avec le sourire, tout va bien. Et en fait, je me dis, merde, ok, je suis là, mais en fait, je connais personne. En fait, ça marchait bien, La Rochelle, pourquoi je suis partie,
Nouvel environnement.
Ouais, nouvel environnement.
Repartir de zéro.
En fait, repartir de zéro, alors que bah, je commençais juste, en fait, ça faisait déjà un an que je partais pas de zéro non plus, mais dans ma profession et dans ce que je m'étais dit, je veux être photographe et je veux continuer à enchaîner des contrats. Oui. Donc là, je repars de zéro. Il m'a fallu peut-être, ouais, je pense, 2 ans pour me faire du réseau, pour essayer de lisser un peu tout ça. Donc, je fais pas mal d'allers-retours à La Rochelle pour continuer à garder mes clients. Et je m'en fais d'autres ici, au Pays Basque. Et en fait, le Pays Basque est une région en fait, enfin, qui sent l'entrepreneuriat. Ouais, non, mais qui sent l'entrepreneuriat, qui est ultra agréable. Du coup, je sais qu'au début, ça a été quand même assez compliqué pour moi de m'y intégrer. Et aujourd'hui, j'ai fait mes marques et je décide avec qui je veux travailler, qui je souhaite voir. Du coup, aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée avec ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même je sais pas comment on peut dire ça, une sphère entrepreneuriale qui est incroyable. Et ça va de plus en plus vers le mieux, en fait. Malgré que ça soit quand même un petit village. Et ce que j'apprécie beaucoup, et c'est assez challengeant, même.
Ouais. Moi, je viens de Rennes, en Bretagne. C'est peut-être moins petit, mais t'as le même effet aussi. Tu vois, le fait de... C'est pas Paris, quoi, en termes de taille, etc. Taille plus humaine.
Et tu touches plus de monde aussi, facilement.
Exactement. Ouais. C'est
un peu la force qu'on peut avoir dans des petites villes comme ça, où c'est facile de rencontrer du monde. D'interagir sur des sujets qui peuvent, par exemple, moi, me correspondre, notamment dans l'image.
Sur la photo, ça a été quoi le contrat le plus marquant que tu as pu faire ?
Le contrat le plus marquant en photo...
Il faut quand même préciser, tu as quand même travaillé avec Meta,
oui.
Avec Google, avec des très grosses marques.
Et ma première... Alors, si on revient à la question...
C'est important de le préciser,
oui,
tu vois.
Dont tu me parles. Et en fait, je repense beaucoup à comment j'ai commencé et aux premiers contrats que j'ai pu avoir. Et aujourd'hui, les contrats que j'ai...
Sont
complètement différents. Où on fait appel à moi, pas non seulement pour la photo ou pour mon visage, mais bien plus aussi parce que j'ai d'autres capacités, d'autres compétences à leur offrir.
Une vision stratégique. Oui. Voilà.
Et en fait, tous les contrats... J'ai pu avoir, alors il y a forcément eu des loupés sur certains trucs.
Comme partout.
Voilà, où tu dis, oh, en fait, ça devait être génial, mais en fait, c'était pas si bien que ça. Mais en fait, chaque expérience comme celle-ci me permet de me dire ce que je veux pas et ce que je veux vraiment. Du coup, à chaque fois, je le prends comme ça.
C'est toujours de la valeur ajoutée.
C'est ça. Okay. Et en fait, il y a un contrat aussi, je pense que c'était dès le début, alors dans le mannequinat, mon premier contrat, c'était Givenchy. Et du coup, je me dis, waouh. Je lui dis, non, c'est pas vrai. Quand on me dit, bon, tu viens à Paris maintenant, tout de suite, et tu fais le casting, et dans la foulée, en fait, t'es prise. Ça s'est passé comme ça. J'ai fait, non, moi? Vraiment, j'étais assez surprise, le fou.
Parce que, du coup, quand t'es photographe, t'es derrière l'objectif. Tu réfléchis à la stratégie, etc. Là, tu passes devant l'objectif, ce qui est quelque chose de complètement différent. Forcément, au départ, t'as pas forcément confiance en toi. Comment est-ce que tu vois cette évolution aussi de gagner en confiance, en légitimité aussi ? Tu vois, au départ, il y a toujours ce fameux syndrome de l'imposteur,
ouais,
etc.
Complètement. Il est encore là.
Je pense qu'on l'a tous toujours, tu vois. Ça se soigne au fil du temps. Mais comment est-ce que t'as vu cette évolution ?
Après, je me suis dit, fais bonne figure, relève les épaules. Ouais. Et en fait, ne fais pas voir que tu peux avoir peur ou t'es intimidé. Surtout en plus dans ce monde de l'image, là où...
T'es obligé d'avoir une carapace.
Ouais, de fou. Et je l'ai encore aujourd'hui, que ça soit... quand je peux travailler avec d'autres prod ou avec juste des clients qui... en fait, c'est horrible, hein, mais tu viens, selon de là où tu viens, on va directement te coller une étiquette. Et en fait, j'ai vu comment ça marchait. J'ai vu que si tu... selon ton histoire, les gens vont se dire, bon, celle-ci, elle a un peu de caractère. Ou alors, non, elle est trop mignonne, elle est trop timide, on en fait ce qu'on veut. Et en fait, ça, je l'ai calqué, mais enfin, je l'ai vu directement et j'ai fait, ouais, en fait, moi, je veux pas qu'on fasse n'importe quoi de mon image ou n'importe quoi. Je veux pas être catégorisée comme tout le monde. Ça a toujours été. Et donc, du coup, j'en ai fait un peu une force. Et donc, quand j'arrive sur des plateaux ou quoi, bah, en fait, j'impose un peu bah, mes règles, mes codes. Alors oui, ça passe pas. Mais bah, au moins, je sais là où je vais.
Et c'est aligné à chaque fois avec tes valeurs et ce que tu as envie de transmettre dans tout ce que tu vas créer.
Exactement. Ouais. Et des fois, oui, j'ai des moments de doute. Peut-être j'aurais pas dû, peut-être voilà. Mais c'est vrai que bah, ça vient de moi en tout cas. Je me laisse pas, en fait, pas persécuter, je dirais pas ça non plus. Mais je laisse pas le choix, en fait, à la personne en face de faire le choix pour moi. De m'aider, ça c'est une chose. De m'orienter, c'est une autre aussi. Mais oui, de me dire, non mais toi, en fait, on te verrait plus peut-être comme ça ou comme ça. Et en fait, dans tous les... En fait, c'est juste de se faire respecter. Et c'est vrai que bah, faut un peu montrer les crocs, pardon. Alors que ça, en fait, que ça soit dans le milieu de l'image ou même juste
même dans l'entrepreneuriat.
La vie, ouais, même donc, c'est ça, dans l'entrepreneuriat tout court. Surtout, je dirais pour une femme en soi, ouais, face à des hommes ou qui se disent ah ben bah, elle est mignonne, elle tiens on va en faire un peu ce qu'on veut, parce que c'est un peu l'impression que je peux donner au tout début, elle est mignonne et voilà. Et en fait bah je remets un peu, je recadre, mais je recadre très souvent de fois, parce que sinon je me fais bouffer.
Ouais, bien
clairement
sûr.
Donc c'est un peu la on le sait.
Tu dois mettre beaucoup plus d'efforts que qu'un mec blanc machin, etc. Enfin c'est logique quoi.
Oui. Ouais.
Parce qu'on est dans un monde très patriarcal, et encore plus je pense dans la mode, etc.
Oui.
Où le jugement se fait peut-être beaucoup plus facilement aussi, même si dans beaucoup de milieux c'est comme ça. Donc très intéressant. À côté de tes activités de photographe et de mannequin, tu ne fais pas que ça. Tu crées une marque qui a un nom trop stylé, Madame Badass, en 2021, qui est une marque d'upcycling éthique, qui est très très cool. Comment est-ce que tu as eu l'idée de créer cette marque? Finalement, tout est relié à l'image,
exact,
etc.
Exact.
Comment est-ce que tu as eu l'idée et comment est-ce que tu as créé cette marque?
En fait, ça s'est passé pendant le Covid, où bah, clairement, comme tout le monde, on était tous enfermés avec ses idées, sa créativité. Et en fait, moi-même déjà, j'ai toujours aimé aller dans les friperies pour aller m'habiller, sans savoir aussi que ce que je faisais, bah, c'était en fait de la seconde main, que c'était bon pour la planète, comme on peut le dire aujourd'hui, de récupérer, d'upcycler, de recycler, etc. En fait, ça partait plus de mon envie de me dire, mais en fait, j'adore m'habiller avec des vêtements dites vintage, mais c'est pas vintage, c'est de plutôt de seconde main, et en fait de reprendre l'ancien. Je faisais ça aussi en fait avec les vêtements de mon père et de ma mère. Et en fait, j'ai toujours aimé notamment prendre les vêtements de mes parents et de les réadapter pour moi. En fait, c'est comme si j'avais quelque chose à eux sur moi et que ça me porte chance, et je le fais encore avec mes amis, je récupère des choses que je peux porter, que ça soit des bijoux, que ça soit un peu klepto. Je sais pas si on veut dire ça, j'aime. Et du coup, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai commencé à récupérer les vêtements de les blazers, les costumes de mon père que j'ai réadaptés pour moi. Bon, j'avoue qu'il était un peu surpris parce que je ne l'ai pas trop posé la question, mais je voyais qu'il avait le choix, clairement pas. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je ferais pas ça pour d'autres femmes, en fait? Et je me suis dit, bah, ok, on tente, parce que c'est clairement parti comme ça. Et en fait, dans ce qui me passionnait à ce moment-là quand j'ai lancé Madame Badass, c'est de juste la construction, de me dire ok, on va faire ça comme image, je veux un truc ultra ultra singulier, ultra esthétique, je veux que ça soit sensuel, je veux que ça soit affirmé, mais vraiment en fait côté business. Genre, je vais vendre.
On crée pas une marque de fringues pour faire du business,
voilà,
globalement.
C'est ça. Mais vraiment, je me disais, bon, oh, ça se vend pas, c'est pas grave, en fait. Et encore aujourd'hui, je pense pas assez vente, parce que je suis tellement passionnée par, oh, j'adore. Même moi, j'aimerais acheter toute ma collection si je pouvais le faire. Et du coup, ça a commencé comme ça. J'ai fait mon propre site internet et je me suis formée. En fait, même dans juste le plaisir de me dire, putain, j'ai fait un site internet toute seule. J'étais trop contente de moi, en fait. Et juste de me dire, bah là, on va shooter, on va faire ça. Et en fait, c'est un peu toutes les compétences que j'ai pu acquérir en fait au fil un peu des années et de me former qui ont fait du coup Madame Badass aujourd'hui et j'apprends encore et qui ont en fait créé du coup ma marque aujourd'hui.
Ouais. C'est quoi les objectifs futurs sur un peu toutes tes activités? Est-ce qu'il y en a ou est-ce que tu te laisses un peu porter
Alors, il y en a, il y en a. Et aujourd'hui, là, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est... Alors, j'ai ma marque, tout va bien. Je suis assez contente de ce que j'ai lancé. Le côté direction, directrice artistique, styliste aussi, on n'en a pas parlé, je t'en parlerai après.
Mais dis-le quoi.
Qui est tout, en fait, un ensemble de toutes mes compétences. D'aller vers un objectif beaucoup plus gros et ambitieux et en fait de transformer plutôt la façon qu'on a de s'habiller et c'est plutôt une innovation en fait que j'apporte à Madame Badass mais ça sera en fait dans un second temps et ça c'est beaucoup plus volumineux on va dire que simplement monter sa petite marque en soi et c'est un peu là où je veux aller dans le futur et c'est un peu en fait un peu ma mission de vie d'insuffler le fait de casser les codes d'être à fond dans l'authenticité, soyez vous-même, lancez-vous, soyez juste la vraie personne que vous êtes au fond de vous, n'essayez pas de chercher à être quelqu'un d'autre ou surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui en soi on passe notre temps à regarder ce que font les autres
à se comparer.
Hein ?
À se comparer.
Ouais, à se comparer physiquement tout, enfin pas que physiquement, je veux dire juste même entrepreneurialement parlant
dans les accomplissements.
C'est ça, les accomplissements et en fait je trouve que c'est dur juste d'avancer avec tout ça, en fait, en arrière-plan, que ce soit par rapport au réseau, Insta, LinkedIn. Et du coup, et c'est là où je dis, en fait, juste soyez passionné par ce que vous faites à fond. Et en fait, normalement, tout découlera, en fait. Tout ce que vous allez créer par passion, vous n'aurez même plus rien à vous prouver en soi. Et je parle après... Business, mais pour moi c'est passion, c'est pas business, c'est juste passion. Et tout ce que je fais là aujourd'hui, c'est que de la passion, clairement. Alors des fois ça peut poser problème, hein, on est d'accord, hein. Parce que des fois ça peut m'arriver de dire non, j'ai pas envie de faire ça. Et pourtant c'est un contrat qui pourrait me rapporter bien plus. Ouais, donc ça arrive. Mais j'ai du mal à faire des choses que je ne veux pas faire parce que avant. Quand j'ai lancé ma boîte, en me disant je ne veux plus faire des choses que j'aime pas. Donc c'est automatique, c'est comme ça.
C'est aussi le mix entre artiste et entrepreneur, qui effectivement l'artiste va être motivé par ses passions, l'entrepreneur par le business. Et encore, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont animés à la base par une passion ou par quelque chose qu'ils veulent résoudre aussi, tu vois. Mais tout ça, c'est connecté, en fait, dans ton parcours et dans tout ce que tu as pu faire. Et donc, il y a un autre métier, effectivement, dont on n'a pas parlé. C'est ton métier de styliste. Mm. Comment est-ce que tu fonctionnes là-dessus?
En fait, là, par exemple, le stylisme, encore une autre compétence que j'ajoute à mon multipotentiel. multifacette, pas multipotentiel. Ouais. Multifacette, où du coup, je peux très bien faire de la photo, du mannequinat, du styliste, du coaching en image. Et en fait, tout ça vient avec Madame Badass, où du coup, j'ai pu proposer des services de stylisme à d'autres marques, où on vient me chercher aussi pour ça, et où je peux placer aussi mes produits Madame Badass sur des productions. Donc en fait, clairement, c'est venu comme ça, et encore une fois, c'est encore passionnant pour moi d'être dans la mode, de toucher encore à l'esthétisme, la singularité, de dire non mais là on peut faire un truc de fou, là on peut changer ça, la nana elle peut être habillée comme ça pour le set, bon toujours en respectant un peu le brief des clients, c'est toujours l'essentiel, mais d'avoir en fait cette touche un peu de liberté et c'est ça que je chiffre dans chacun de mes projets et quand on vient me chercher, que ça soit sur de la photo ou du mannequinat, c'est toujours ce qu'on me demande et de plus en plus et c'est là où je me dis mais en fait je suis trop heureuse juste d'être arrivée là alors que c'était clairement mon rêve et aujourd'hui quand on parle d'objectifs, il faut avoir des objectifs dans la vie en soi ou juste des objectifs dans ton business, c'est très important et clairement c'est important mais j'oublie juste pas de me dire en fait, là, juste, je suis à un moment de ma vie où, mais en fait, meuf, là, t'es en train de vivre les meilleures années de ta vie. Donc, en fait, tu peux écouter les autres, mais juste recadre-toi sur le fait que prends du plaisir dans ce que tu fais, prends du plaisir dans ton business, mais surtout dans ta passion. Donc, n'oublie pas ça. Et s'il faut qu'il y a des moments, en fait, tu vas un peu moins vite, bah, va moins vite. S'il y a des choses où, la passion me fait aller vite sur certains trucs, il faut absolument que je fasse tout en même temps, il faut absolument que, donc, ça me va parce que c'est ma passion. Mais vraiment, j'essaye vraiment de me dire, oui, est-ce que là, ça te passionne ou est-ce que là, t'es mal, parce que c'est trop pour toi? Et vraiment, j'essaye vraiment d'être à l'écoute de moi-même là-dessus. Et malgré toutes les rencontres que je peux faire, qui sont ultra stimulantes dans l'entrepreneuriat, où faut toujours faire plus, toujours. Mais c'est quoi faire plus? Et en fait, c'est quoi en fait même la réussite? Pour chacun, je pense que la définition est à revoir. Enfin, clairement. Et moi, la réussite, j'ai envie de dire que je l'ai quand même fait en fait aujourd'hui. C'était en fait de sortir de ce cadre salarial pour arriver à faire de ma vie une passion et de faire de mon travail une passion. En fait, enfin, c'est juste passion. Donc, pro perso, je veux faire que des choses qui me plaisent et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et oui, je vais pas dire que je clôture un peu là-dessus, mais oui.
C'est... Je pense qu'effectivement, il y a aussi un vrai côté aléatoire au parcours, tu vois. C'est-à-dire qu'on va faire des actions, mais qui derrière vont peut-être donner des choses dont on se serait pas attendu. Tu vois, typiquement, toi, est-ce que en 2016, si on t'avait dit, bah tiens, aujourd'hui, Lorinda, en 2023, elle est là, est-ce que potentiellement, t'y aurais cru, tu vois, entre guillemets?
Ah, bah, je pense que je me serais posé 3000 questions, comme. Ouais. Et je me dis, ouais, est-ce que c'est vraiment.
On sait jamais la trajectoire.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et je me suis pas dit, je souhaite arriver là. Non, en fait, c'est plus chaque projet que j'ai pu faire, je les prends parce que je kiffe, chaque passion, chaque projet passion, je les appelle comme ça, m'emmène sur un autre projet passion, etc. Et m'emmène du coup à l'aboutissement de créer ma propre marque avec mes propres codes et sans me rendre compte en fait qui me reflète aussi qui je suis sans trop l'avoir compris dès le début. C'est plutôt les gens que j'ai pu rencontrer qui ont pu me le dire. Mmh. Et en fait me dire mais en fait oui en fait je fais que des choses que j'aime en fait. Ouais. Tout le reste tout le reste non quoi.
Et ça c'est un bel aboutissement.
Ouais, en fait je dirais j'ai toujours envie de plus, ça c'est sûr. Mais j'essaye aussi de me dire repense à genre il y a 10 ans. Mais en fait, t'es sorti tout ce que je voulais pas et ce que je détestais et que c'était le salarial. Et clairement, de me dire, je travaille pour d'autres personnes ou tu ne gères pas ta vie comme tu le voudrais parce que le travail prend quand même beaucoup de temps dans la vie en soi. Et ça, je savais très bien que c'était quelque chose que je ne voulais pas. Donc, je réalise aussi, je n'ai pas envie de dire chance parce que j'ai quand même travaillé pour en arriver là. Juste de me dire, putain, mais meuf, t'as réussi en fait. Enfin, c'était vraiment en fait ton rêve et aujourd'hui, je continue à aller en fait sur ce chemin-là en me disant, mais en fait, il y a toujours plus. Et effectivement, ça a grandi toujours. Je descends pas. Et pareil aussi, même sur l'aspect financier qui est aussi important, on se le cache pas. Où je vois, mais oui. Enfin, quand je vois que mon CA évolue et que clairement, si j'étais restée au SMIC avec mon bac pro, non en fait. Enfin, je me dis, mais oui en fait. Enfin, je peux être assez fière de me dire que je suis sortie de ce cadre-là que la société nous impose pour aller en fait vers des choses qui me plaisent.
Okay.
Mais je trouve que c'est quand même c'est pas simple. Enfin,
non.
En fait,
je pense que c'est un chemin de vie. Hein.
Oui, c'est un chemin de vie.
C'est simple pour personne, tu vois.
C'est ça. Moi, clairement, c'était un déclic parce que j'ai perdu quelqu'un. Je l'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu ça. Clairement, parce que j'aurais été en fait confrontée encore à mes peurs et de me dire non, je me lance pas, je pourrais pas payer mon loyer, je pourrais pas si je pars toute seule comme ça, je ne sais où. Alors que quand t'es salarié, voilà, t'as un revenu fixe et tout. Oui.
On passe à la partie bilan de ton aventure avec deux petites questions. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale?
La plus difficile, je me dis que des fois, elle n'est pas passée. cette phase plus difficile. En fait, je dirais que c'est plus difficile, c'est plus des remises en question sur soi qu'au côté business, encore une fois.
Je parle pas de business, hein.
Ouais,
je parle vraiment de ton aventure au global, tu vois.
Bah, je dirais que c'est dont je t'ai parlé tout à l'heure, ce décès qui est en fait vraiment
le point de départ
où du coup tu grandis aussi très vite et tout va très vite pour essayer en fait de trouver plutôt de l'apaisement et ça a été de faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette partie-là qui a été, je pense, le plus compliqué pour moi. Et aujourd'hui en fait tout est relatif. En fait, dans, voilà, si j'ai des problèmes d'argent ou alors si il y a des contrats qui se passent moins bien, tout est, enfin, je le vis en fait tellement différemment. En fait, il y a des caps en fait dans la vie qui sont tellement durs à surmonter que
tu relativises.
Ouais, tu relativises. Et je pense demain, j'ai pas envie de me dire est-ce qu'il va y avoir quelque chose de pire que ça. Non, mais oui, c'est facile aujourd'hui de relativiser et de me dire c'est pas grave en fait. Enfin,
et à l'inverse, c'est quoi le moment le plus marquant positivement de ton aventure?
Je pense que c'est Madame Ada, c'est la création de ma marque. Ouais.
Quelque chose qui te tenait à cœur.
Ouais, complètement. Complètement. De créer ma propre marque avec mes codes et l'engouement aussi des gens vis-à-vis de ça. Ou, ouais, clairement. Clairement, c'est ma marque aujourd'hui. Et après, il y a toujours des choses où, en fait, il n'y a pas de « je préfère » ou des choses encore plus marquantes, mais oui, quand j'ai des clients qui me contactent et qui me disent bah, « on voudrait vraiment travailler avec toi » et ils savent pourquoi, ça, rien que ça, c'est un bon moment. Quoi.
Non, mais c'est clair, ça, ouais. Mais c'est super important.
Donc,
Ok, super. Alors, on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et aussi la vie perso. La première question, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure? On sait que des rencontres, on en a plein toutes les semaines, tous les jours, parfois. Mais est-ce qu'il y a une rencontre en particulier que t'aimerais, dont t'aimerais parler?
Oui, j'ai une rencontre en particulier qui... alors, faut savoir juste que j'ai eu du mal, en fait, à un certain moment, à m'ouvrir. Et on parle, en fait, aussi de la définition d'entrepreneur que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire qu'avant, bah, je faisais mon truc. Voilà, je fais de la photo, j'ai des contrats. Je suis mannequin sur telle chose. Voilà, ça m'allait très bien. Mais en fait, je ne m'ouvrais pas trop. Et en fait, je ne m'ouvrais pas parce qu'on me disait... En fait, tu peux pas vraiment vivre de ça. En fait, de toute cette négativité-là. Donc, du coup, je me suis assez fermée jusqu'à ce que j'aille au Pays Basque. Et c'est le Pays Basque et les rencontres que j'ai pu faire là-bas qui m'ont ouvert l'esprit sur le fait que, en fait, c'est chouette aussi de fédérer, d'échanger sur son business. Et en fait, à partir du moment où t'assumes, en fait, juste ce que tu fais, et que t'es sûre de tout ce que tu peux dire, c'est OK. Mais il y a eu des moments où, ouais, je sais pas, je suis photographe, je suis vidéaste, je suis styliste, je suis coach en images, je suis mannequin aussi. Mais du coup, en fait, tu fais quoi, en fait? Genre, t'es un peu perdu, non? Non, mais tu vois, c'est des choses comme ça que je pouvais recevoir aussi à certains moments. Et d'autres où c'était ultra gratifiant, on me disait, mais tu fais plein de trucs, c'est génial. T'as monté ta marque, tout ça, mais... Donc, du coup, en fait, j'avais tendance un peu à clôturer tout ça, à fermer tout ça. Et en fait, du coup, maintenant, j'ai compris un peu le bonheur aussi de faire des rencontres ultra intéressantes, gratifiantes. Et j'avoue que c'est le Pays Basque quand même qui m'a ouvert à ça. Et grâce aux structures qui ont pu se monter là-bas. Et où du coup maintenant bah j'y vais avec grand plaisir, ce qu'avant je faisais pas parce que bah je rentre pas trop dans les codes en fait, et c'est ça un peu mon profil aussi, où j'ai eu longtemps du mal à me présenter, à dire bah je fais ça sans avoir la grosse tête, tu sais, c'est dur en fait, enfin et donc j'ai eu une personne qui m'a aidée à me recentrer là-dessus et à me dire mais en fait regarde tout le potentiel que tu as. Et on parlait de le syndrome de l'imposteur aussi, où il m'a beaucoup aidé en fait à me dire en fait tout est aligné chez toi, et en fait sans cette rencontre là bah tu vois je pourrais pas t'en parler avec bienveillance, ouais. De cette façon là je serais là en train encore d'hésiter. Je veux dire, cette rencontre là m'a permis de m'aider et d'avoir des angles vraiment différents sur la multifacette que je peux être. Et donc, c'est ce Guillaume Catala.
Ok,
Voilà.
Qui est entrepreneur,
qui est mon mentor, mon ami, et qui est aussi mon investisseur.
Ok, ouais. Super, trop cool. C'est quoi le plus important aujourd'hui pour toi, dans ce que tu fais?
Le plus important pour moi dans ce que je fais, encore toujours de m'écouter et d'être guidée par ce que j'aime. Ça m'arrive parfois d'avoir des dindes, tu me diras, comme tout le monde, et de me dire, mais en fait, faut faire extrêmement attention juste à sa santé mentale. Et ça, je dis ça par rapport à ce que j'ai pu vivre, notamment, et de me dire, mais juste oublie pas de toujours, je parle encore de passion, et de faire extrêmement attention à ça, donc de pas oublier cette partie-là. Ouais, clairement.
Et ma dernière question pour cette partie, c'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso ?
J'ai longtemps réfléchi un peu à ça. Je trouve que c'est un peu... c'est pas si simple. En fait, il y a des moments où je me suis dit les rencontres que j'ai pu avoir sont tellement top que, en fait, si je dois travailler avec cette personne, en fait, je peux pas me dire... En fait, je le considère comme du pro. Tu sais, c'est très... Parce que t'as un coup de cœur sur cette personne, tu choisis pas. Et en fait, tu dis, non, en fait, lui, je vais le faire dévier dans le perso parce que... parce que j'apprécie beaucoup cette personne et c'est
important. Et parce qu'on est humain aussi,
voilà,
tu vois.
Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, j'ai pas envie de me dire aujourd'hui, je définis ma vie pro-perso. En fait, humainement, j'ai pas envie de me dire ça. J'ai envie de me dire, voilà, si j'ai des accroches avec des gens que je rencontre professionnellement, c'est en fait, les deux sont liés pour moi, clairement.
J'en parlais dans le podcast juste avant, je disais que, en fait, la barrière, elle n'existait pas.
Elle n'existe pas.
Que l'équilibre, globalement, n'existait pas et que tout était connecté, en fait.
Ouais, tout est connecté, tout doit être assez fluide aussi.
C'est ça.
Je pense, par exemple, à ta vie de couple, par exemple, ou ta vie amoureuse, en général... En fait, tu parles de toi, mais tu parles de ton business. Enfin, c'est toi, donc tu peux pas en fait délimiter ça. Et après, c'est vrai que il y en a qui vont comprendre, d'autres qui ne vont pas comprendre, et que c'est très important de dissocier les deux. Moi, pour moi, c'est une aventure en fait, ma vie entrepreneuriale et mon aventure de vie perso. Et c'est que c'est la même chose.
Ouais.
C'est clairement la même chose.
Ouais, je comprends
les liens. Mais c'est vrai que tout le monde ne pense pas comme ça, et il y a de quoi. Parce que je pense que j'aurais été salariée, j'aurais eu envie de séparer les deux. Mais je pense que quand ton cœur de métier, c'est ta passion...
Ça fait partie de toi.
Ça fait partie de toi. Tu n'as pas envie de le couper, en
bien
fait.
Bien sûr.
C'est toi. C'est tout ce que tu as pu accomplir. Donc, tu as accompli ta vie professionnelle qui te colle à la peau. Aussi bien, en fait, ta vie amoureuse qui te colle à la peau aussi. Enfin, c'est la même chose, tu vois. Pour moi, c'est la même chose.
Complètement aligné avec ce que tu as dit.
Voilà, mais comme tout, faut faire attention à ce que tu acceptes ou à ce que tu n'acceptes pas.
Exactement.
Et d'avancer comme ça sans avoir des objectifs pas monstrueux. Il faut en avoir, tu vas me dire. Mais il faut faire attention à tout ce mindset-là.
Ouais. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. Chaque fois, évidemment, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ?
Qu'est-ce que je fais pour aller mieux ? Le sport. Ouais. Le sport me permet de me vider la tête. Surtout au Pays Basque où on a clairement tout ce qu'il faut pour être en pleine nature, pour être juste seul. La solitude fait partie aussi de quelque chose qui me fait vraiment du bien, clairement. J'aime beaucoup m'enrichir aussi de podcasts, de livres audio. Et ce que je faisais pas avant, les livres audio aussi me permettent beaucoup d'apprendre et de grandir sur une facette différente de ce que je suis et que j'ai envie d'alimenter et qui me permet aussi, ça va avec le business forcément, et aussi ma vision du monde ou juste en fait, quelle est la version que je veux être encore plus. Même si je faisais déjà un peu du développement personnel, enfin, c'est clairement du développement personnel, mais ça m'aide encore plus à aller, en fait, je veux ça. Je veux ça et pas autre chose.
Pour amplifier ton impact et qui tu es, en fait.
Ouais, exactement.
Ouais.
et puis pour prendre les meilleures décisions aussi de mon côté dans ma vie en général.
C'est quoi ton plus grand rêve?
C'est le projet suivant.
Ouais,
ouais.
La suite, ok.
C'est la suite, et notamment avec Madame Mada, c'est ce que je... et l'innovation que j'apporte à mon projet, et j'espère pouvoir t'en parler dans quelques années.
Carrément, work in progress.
Exactement, exactement.
C'est quoi ta plus grande peur?
Ma plus grande peur... J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ma plus grande peur, en fait. Ma plus grande peur, c'est de vivre sans passion. Ça serait triste et je serais malheureuse de vivre sans ça, je pense.
Ouais.
Ouais.
Ouais, je pense.
Donc c'est pour ça que j'y vais à fond dans tout ce que je fais parce que ça me passionne. Ouais.
Est-ce que t'as un livre à me conseiller?
Oh, j'en ai plein. J'en ai plein. Je te dirais là. Alors j'en ai un en tête, mais j'enregistre pas les auteurs. C'est pas très bien.
T'inquiète, je
mais tous les livres de... il faudrait que... Comment elle s'appelle déjà?
Sinon, tu me...
Je vais t'envoyer un message,
ouais.
Et je te mettrai tous mes livres, ouais, que j'adore et que
très
je trouve
bien.
Que tout le monde devrait lire, en fait.
Toutes tes recos seront
sur
petit lien.
De Lise Bourbon.
Okay.
Bourbeau. Si je ne me trompe pas. En fait, elle fait énormément de livres sur le développement personnel. Et il y en a sur les blessures, sur comment se reconstruire par rapport à toutes tes blessures. Notamment, ça t'aide en fait, à savoir en fait, qui tu es au profond de toi. Et c'est ultra intéressant.
Trop bien.
Donc,
bah, je me note ça.
Voilà. Mais je pense
tu m'enverras
une grande...
ça.
Ouais, je te ferai une
on
grande liste.
On mettra en description, tu vois.
Exactement.
Ça sera top.
Oui.
Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller, pas forcément relié à l'entrepreneuriat, etc., tu vois, mais des films ou séries qui t'ont marqué ces derniers temps?
Oui, il y en a. Il y a une série, moi, que j'avais commencé quand j'étais un peu plus jeune et qui m'avait un peu insufflé un peu ce côté entrepreneurial, celui de Sophie Amoruso. Girl Boss,
okay.
C'est une série. Ils en ont fait en fait, elle a sorti un livre de sa biographie.
J'avais entendu parler du livre, mais
voilà,
pas de la série.
C'est
okay.
ça. Et donc, du coup, après, il y a une série qui est sortie. Et clairement, ça m'a. En fait, tout son côté fashion, en fait, c'est elle qui lance en fait la première plateforme e-commerce aux États-Unis. Et avec toutes ses collections en soi. Et j'avoue que cette femme m'inspire beaucoup, ouais.
Trop
ouais.
Bien. Ok, bah écoute, je me la note, c'est cool aussi.
Oui, mais le livre étant, je sais pas si tu l'as lu le livre.
Non.
Le livre est encore mieux que la série, bien sûr.
Ok, bon bah je me focalise sur le livre là.
Voilà.
J'ai rajouté une question pour cette saison qui s'appelle la question reverse. C'est-à-dire que pendant une question, c'est toi qui deviens host du podcast. Et si t'as une question que tu souhaiterais me poser, ce serait laquelle?
Alors, moi, je sais que je te suis depuis 2018.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé,
oui.
Mais oui.
2018. En fait, c'est assez drôle parce que même dans mon parcours entrepreneurial, je me souviens que j'écoutais déjà ça. Donc, en fait, c'est un peu la réflexion. Je me suis dit, mais j'écoutais déjà des livres là-dessus.
On a grandi un peu ensemble, en fait.
Et c'est ça, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Du coup, je me dis, en fait, alors après, je te suis aussi sur LinkedIn, donc je vois des choses passer et ton parcours est fabuleux, franchement.
Trop gentil.
Et je suis encore tes podcasts. Et aujourd'hui, du coup, je voudrais savoir, est-ce que tu es l'homme que tu as toujours voulu être?
Ouh, wow.
Elle est trop dure, cette question. Oh mince.
Non, c'est une très très bonne question.
Est-ce que par rapport, tu vois, à 2017, 2018, où moi je sais que j'écoutais tes podcasts, est-ce que l'homme que tu étais là à ce moment-là, et aujourd'hui 2023, est-ce que tu, à travers tout ça, ton chemin,
ouais,
pro-perso, tu as réussi à devenir celui que tu as toujours voulu être? Mais peut-être aussi que tu t'es peut-être pas forcément posé cette question-là.
C'est une super question, on ne l'a jamais posée. Je sais même pas ce que je voulais devenir, tu vois.
Ok.
Tu vois, c'est hyper difficile. Après, je pense qu'effectivement, si je retrouve mon moi de 2017 et que je lui dis, ok, il s'est passé ça sur les 5 dernières années, clairement, je peux répondre que oui, tu vois, à cette question. Parce qu'en vrai, il s'est passé tellement de trucs, il y a eu tellement des rencontres de dingue, des connexions incroyables, des conversations incroyables, et tout ça fait que, tu vois, je peux pas répondre non à cette question. L'objectif, ça va être de continuer dans cette trajectoire. J'ai pas d'objectif particulier, même si c'est un objectif entre guillemets. Mais oui, complètement. Je pense que oui, je suis content d'être là où je suis actuellement, tu vois.
Ok.
Versus là où j'ai démarré, sans entrepreneur dans mon entourage, des parents qui étaient fonctionnaires, et qui le sont toujours d'ailleurs. Je visualisais pas l'entrepreneuriat encore avant, tu vois, en 2016, je savais pas véritablement ce que c'était, comme toi au début. Ouais. Et du coup, tout ce qui s'est passé, ça a forgé plein de trucs. Ça m'a permis aussi, je pense, d'évoluer aussi sur qui je suis, comme sur ton évolution. Et je pense que c'est ça le plus important, en fait, de dire, OK, maintenant, je veux plus faire ça, je veux plus avoir des relations avec des gens qui vont me mener vers ça. Je veux m'entourer que de gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui veulent aller dans la même direction et qui, enfin, relation saine, tu vois, sincère. Je veux de l'authenticité, je veux pas du superficiel. Et le podcast m'a tellement apporté par rapport à ça, tu vois. Enfin.
Ouais, j'imagine.
Donc, excellente question. Je sais pas si la réponse était.
C'est dur, hein, ta vie. Tu pars dans plein de choses et après tu fais. C'est pas déjà la question. C'est exactement ça.
Et c'est pour ça. En fait, l'objectif de cette question, c'est de me mettre dans.
dans. Je vais pas trop bien.
Exactement. Oui. Il me reste deux questions pour ce podcast. La première, c'est est-ce que t'as une ou un entrepreneur à me conseiller pour de futurs épisodes?
Eh bien, j'ai la personne dont je t'ai cité qui est mon mentor, pour moi et mon ami, mon investisseur, qui s'appelle Guillaume Catala, et qui est aujourd'hui cofondateur de Aqualines. Et je veux pas le présenter. Je préférerais qu'il le fasse lui-même.
Très bien, ça me va très bien.
Donc, mais en tout cas, c'est une personne extraordinaire et qui a énormément apporté à beaucoup de gens, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, qu'on devrait écouter en soi et qui mérite d'avoir plus d'impact, ouais, en fait, sur les jeunes entrepreneurs. Il le fait déjà en soi, mais ça serait génial. Ouais, franchement.
Ok, franchement, ouais. Trop cool. Je note la reco. Et ma dernière question que je pose sur tous mes épisodes depuis un certain moment, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur?
Eh bien, je dirais que c'est une personne qui doit suivre sa passion, qui doit, en fait, en rapport avec son chemin, ses expériences de vie, adapter en fait son parcours en fait, en fonction de ses expériences. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et c'est pour ça que je vis très bien ma vie aujourd'hui, qui est aussi mon travail. Et donc je pense que tout entrepreneur devrait en fait, en fonction de ses expériences, suivre cette voie là et non pas faire un business pour faire un business. En fait, ça tient pas, et c'est pour ça que dans ma perception, l'échec, ça n'existe pas tellement. Parce que je rebondis tout le temps, parce que c'est toujours passionnant, en fait. Mais je m'en suis pas rendu compte dès le début. Et c'est pour ça, Madame Badass, ou peut-être le projet prochain, je me dis pas, c'est un échec, ou je vais attendre, je me laisse 3 ans pour que ma marque, elle fonctionne ou quoi. Non, je me le dis même pas, en fait. Je me dis pas ça. Donc, en fait, si t'es pas passionné clairement par ce que tu fais, ça sert à rien de le faire.
Donc, la passion et le reste suivra.
Ouais, c'est ça.
Ce seront les mots de la fin, du coup.
C'est ça, exactement.
J'espère que ça t'a plu.
C'était très cool. Moi, c'est passé trop vite.
Ouais, de ouf. Je crois qu'on a fait une petite heure. C'était très cool, ça m'a beaucoup plu. J'espère que toi aussi, qui nous as regardé et écouté, évidemment, ça t'a plu aussi. On mettra tous tes liens en description.
Ok, cool.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part du kiff et de continuer à continuer tes passions, finalement.
D'être heureuse et de continuer à voler comme ça.
Exactement.
Exactement.
Merci beaucoup, Laurinda.
Merci à toi. Merci. Salut. À toi encore.
Ciao.
Salut.
Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore un grand merci au Soli Hotel de nous avoir accueillis pour cette série d'épisodes et on mettra évidemment tous les liens en description. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.